When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Le dénouement du premier tour approche, on vote le 10 avril et la campagne est rentrée dans sa phase la plus active. Affiches, meetings, temps de parole, les candidats sont partout tellement, d'ailleurs qu'on a parfois l'impression de vivre en colocation avec eux. Bon, une fois tous les 5 ans, c'est raisonnable et ça ne vous déplaît pas non plus, on le voit avec le succès de notre précédent podcast, hein, vous avez été très nombreux à l'écouter, donc merci à vous et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur libellisé@libération.fr. Mais quelle est donc cette clameur au loin ? Vous voulez un épisode 9 ? Mais avec plaisir ! Il sort tout juste du four. C'est parti ! Il est le dernier à s'être mis en route et il y va doucement. Emmanuel Macron descend dans l'arène électorale entre 2 sommets sur l'Ukraine. Mais quelque chose ne semble pas accrocher. Équipe découvrant les idées de leur champion au dernier moment, critique sur l'absence de débat, proposition jugée trop à droite par une partie de ses soutiens, le président tente de se transformer candidat avec déplacement et un meeting géant au programme. Libellisé, épisode 9, Emmanuel Macron en campagne quand Jupiter descend au bar PMU. Alors, on va en parler avec Laure Ekie, salut.
Bonjour.
Et également avec Jean-Baptiste Daoula, salut.
Salut.
Vous êtes tous les deux donc en charge de la majorité présidentielle à Libération et donc, depuis peu, en fait, du président candidat. Laure, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron s'est mis à faire campagne ?
Eh oui, depuis peu de temps, dans la toute dernière ligne droite. Jusqu'ici, il faisait une campagne en pointillé, tout en gérant ses dossiers présidentiels. Et de fait, le dossier ukrainien a pris énormément de place depuis le 3 mars et sa déclaration de candidature. Là, on a l'impression que Dijon est son premier déplacement de campagne.
Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a eu un changement quand même aujourd'hui ? Alors, donc, on le voit, Emmanuel Macron donc doit faire campagne, puisque le premier tour, c'est le 10 avril. Est-ce qu'il y a quand même eu un changement dans la campagne d'Emmanuel Macron par rapport au plan initial ?
Il y a eu un changement par rapport aux séquences qui avaient été déjà préécrites. Il y avait eu des repérages pour des grands meetings dans quelques villes. Il y avait une dizaine de villes où il y avait eu des repérages. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une dizaine de grands meetings, mais c'était quand même l'idée d'en faire quelques-uns. Il y avait ces formats un peu de grands débats, de conversations, questions-réponses avec les Français. L'idée, c'était d'en faire une douzaine. Pour l'instant, il n'en a fait que 2,5, on va dire. Il y a eu Poissy, il y a eu Pau, et puis dans une certaine mesure, il y a eu Dijon également. Donc tout ça, ça a été réécrit, réadapté. Et il y a une autre forme de réadaptation permanente de la campagne de Macron, c'est il est accusé de ne pas faire campagne, il est accusé de fuir la contradiction, et on a l'impression que dans les quelques journées de déplacement qu'il a fait depuis quelques semaines, chaque déplacement est une forme un peu de correction des critiques qui ont été adressées aux déplacements précédents. À Poissy, il y a eu la critique, la révélation du fait que les questions avaient été transmises et classées déjà par le maire de Poissy, Carl Olive. À Pau, du coup, c'était des lecteurs de Sud-Ouest qui répondaient. Donc, ça veut dire que il n'y avait pas de filtre déjà préalable ou de questions déjà connues. Ensuite, on lui a reproché de pas faire campagne, de pas se mettre en danger. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Dijon ? Eh bien, il fait vraiment le petit manuel du parfait candidat en campagne. Il répond aux débeautés, aux caméras, ce qu'il faisait plus tellement auparavant. Il se met en danger en parlant une douzaine de minutes à un mec qui l'alpague sur le pouvoir d'achat. Vraiment, c'est ce côté. Je me planque pas, je vous montre bien, je surligne le fait que vraiment je suis en campagne, je suis un candidat normal qui ne se planque pas.
Ça veut dire qu'il y a eu un moment, une tentation tout de même chez Emmanuel Macron ou ses équipes de ne pas faire campagne.
Il y a eu, je pense, la tentation de mettre la campagne en mode mineur, quoi. De dire il est accaparé par le dossier ukrainien, et cet argument est indiscutable, au moins dans les premières semaines de la campagne, au plus fort de cette guerre. Et il y a eu sans doute cet effet drapeau spectaculaire. Toute la majorité a été assez soufflée sur le terrain par ce bondissement dans les sondages, alors qu'ils s'attendaient, hors temps de guerre, à Emmanuel Macron entre en campagne et mécaniquement, il baisse un peu dans les sondages. Et donc, du fait de la guerre et du fait de cet effet de cohésion autour du président, il y a eu l'effet inverse. Et là, il y a eu sans doute la volonté d'en jouer un peu. Et de, quelque part, de gérer cette avance comme une rente et de ne pas prendre de risques. Et de jouer la sécurité. Là, je pense que le petit tassement qu'on observe, puisqu'il est à 27-28 dans le rolling IFOP qui suit les cotes au jour le jour, les incite quand même, dans les deux dernières semaines, à marteler le programme et à se déplacer et à entrer au contact, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc un peu paradoxal, c'est que d'un côté, ils sont à 27-28 dans les sondages, ce qui est quand même censé leur apporter une forme de sérénité, et en même temps, il y a une véritable fébrilité qu'on ressent sur une éventuelle démobilisation des électeurs et sur le fait que ce score de 27-28, c'était pas le vrai score, que l'effet drapeau qui leur a apporté 6-7 points d'un coup au moment de la guerre, bah, il n'est peut-être pas si réel que ça, que les Français, vu qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la campagne jusqu'ici, le moment où il va y avoir cette espèce de décongélation un peu express dans la dizaine de jours qui restent avant le premier tour, est-ce qu'il ne va pas y avoir de forts mouvements qui peuvent éventuellement se faire au détriment d'Emmanuel Macron? Tout ça, c'est quand même en toile de fond. Et il y a vraiment cette espèce de fébrilité qu'on ressent chez eux.
Et puis leur inquiétude, c'est aussi le second tour. Même si la consigne est de passer une étape après l'autre, il y a une vraie inquiétude sur le second tour parce que l'écart testé par les sondages entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne cesse de se resserrer. Et donc il y a quand même un peu ce trompe-l'œil, quoi, de se dire il est à 27-28, ce qui est un score effectivement un très bon score. Au premier tour, il y a quand même cette petite crainte de la démobilisation au second tour.
On a vu aussi, il y a des meetings Macron sans Macron, où il y a ses principaux lieutenants, exactement des doublures. Est-ce que ça ne déçoit pas le militant, finalement?
Alors, pour avoir fait un des gros meetings, entre guillemets, de doublure, c'était à Nice. Il y avait l'ex-premier ministre Édouard Philippe, il y avait les deux ministres les plus populaires du gouvernement, Olivier Véran et Roselyne Bachelot, il y avait Christian Estrosi, le local de l'étape. C'est honnêtement un des meetings les plus désincarnés qui m'a été donné de voir depuis que je travaille, ça fait une petite quinzaine d'années. C'était extrêmement étrange, on avait l'impression que tout le monde faisait le taf, entre guillemets. Le côté, les ministres venaient vraiment parler, 10 minutes montre en main, très très pressés de prendre le 20h45, pour Paris, l'avion pour rentrer le soir même. Il y a le côté, voilà, on nous demande de faire campagne, on fait campagne. La salle était assez endormie, assez atone. Ça a vraiment donné une impression extrêmement étrange. Mais finalement, à l'image de cette campagne aussi, d'une campagne où finalement on coche des cases, mais comme s'il y avait assez peu d'incarnation, pas beaucoup de chair, en fait, dans cette campagne Macron.
On a l'impression qu'il y a un fonctionnement, finalement, assez opaque autour d'Emmanuel Macron, parce que lorsqu'il a fait ses propositions, notamment sur le RSA, finalement, en off, on pouvait lire que beaucoup de gens dans la Macronie n'étaient pas au courant. Comment ça se passe, ce fonctionnement de campagne? Qui s'occupe, en fait, de la campagne d'Emmanuel Macron?
Alors ça, c'est une phrase qui revient souvent en Macronie, puis c'est souvent présenté comme quelque chose de super, de disruptif. Il déteste ses organigrammes de campagne, donc il n'en a pas fait. Et c'est vrai qu'ils donnent tous l'impression de s'en satisfaire énormément. Ça cache quand même une verticalité qui a été la verticalité, la manière dont il a exercé le pouvoir et qui est aujourd'hui la manière dont il fait campagne, de manière en très très resserrée, en comité extrêmement restreint. On cite souvent deux noms, celui d'Alexis Kohler et de Clément Léonard-Dzi qui s'occupe, qui est son conseiller communication et presse. Et c'est vrai qu'on sent que ça commence à faire grincer, parce que effectivement, quand tout va bien, quand on sent que c'est huilé, rodé, ce fonctionnement, tout le monde s'en contente, fait mine de s'en satisfaire. Là, comme on sent qu'il y a quelques ratés, que ça flotte un peu, qu'il y a cet effet de correction dont parlait Jean-Baptiste, on commence à entendre des critiques.
Ouais, des critiques sur le côté, en fait, il décide trop de choses en duo avec son secrétaire général Alexis Kohler, donc ça veut dire qu'ils sont parfois un peu submergés, parfois un peu trop techno tous les deux, parfois éloignés des réalités des Français, des réalités politiques, donc ça c'est un truc qui infuse un petit peu. Et puis il y a aussi ce côté... Je pense qu'il y a une forme de frustration par rapport au fait de tout découvrir toujours en direct. Quand ils ont sorti leur site avec vous, c'était une sorte de site de campagne qui avait été sorti un peu comme ça de manière surprise. Ça a aussi été une surprise pour les principaux soutiens de Macron, que ce soit Richard Ferrand, Stanislas Guérini, le patron du parti, Christophe Castaner, celui des députés. Mais en fait, ils l'ont appris à peine la veille. Quand à Poissy, Emmanuel Macron fait une quinzaine d'annonces, comme par exemple la suppression de la redevance audiovisuelle, personne n'est au courant. En fait, à ce moment-là, au siège de campagne, il y a les principaux dirigeants qui sont en train de découvrir les mesures et de prendre des notes. C'est pour dire à quel point eux-mêmes ne sont pas dans les boucles et à quel point Emmanuel Macron a une façon de prendre ses décisions un peu comme ça, avec une forme d'improvisation, mais aussi un peu de maltraitance de ses principaux soutiens. Parce que c'est quand même eux qui sont chargés de faire le SAV de ça après.
Souvent, quand on les interroge sur l'improvisation, d'ailleurs, ils répondent agilité, qui est une espèce de mot de secours dans la boîte à outils de la Macronie, en disant non, mais vous voyez, c'est l'agilité d'Emmanuel Macron, bien connue. Et tu parlais du RSA, c'était par exemple typiquement la mesure où lui la présente. Visiblement, tout le monde n'est pas totalement au courant, en tout cas du détail de cette mesure et de la manière dont elle va fonctionner. Ça laisse plus de questions que de réponses. Et ensuite, lui disparaît, revient à ses coups de fil internationaux, à son agenda présidentiel. Et ce sont les responsables de la majorité, donc les doublures, qui sont chargés d'aller en plateau ou dans les émissions de radio expliquer comment ça fonctionne, et en général ça patine, quoi, parce qu'ils n'ont effectivement pas le détail. Donc là aussi on voit que cette verticalité crée aussi des dysfonctionnements, quoi.
Et on voit beaucoup, tous les autres candidats s'appuient sur leur formation aussi pour faire campagne, pour avoir des relais locaux. Ça existe finalement la place de la République En Marche en tant que parti dans cette campagne, elle existe ou pas?
Ils ont quand même un réseau militant qui retrouve un peu la couleur et qui vit peut-être aussi un peu dans la nostalgie de 2017 et de cette campagne formidable, enthousiasmante, pour beaucoup la première campagne dans laquelle il s'était engagé. Donc j'ai l'impression que sur le terrain, beaucoup retrouvent un peu cet esprit. Après, est-ce que ça suffit à animer une campagne présidentielle? C'est sans doute un peu juste, quoi.
Il y a un truc qu'ils aiment bien nous répéter, c'est sur le terrain, on voit que Zemmour et nous, comme si les autres partis étaient totalement inexistants. Et là, par exemple, le week-end dernier, ils vantaient d'avoir organisé 1700... événements sur le territoire français avec des fois des députés, des ministres, ces fameuses doublures qui viennent représenter Emmanuel Macron. Voilà, ils ont une espèce d'affirmation de leur présence territoriale.
Le responsable de la majorité qui nous a parlé de ces 1700 événements nous a employé l'expression « carpet bombing ». Et on s'est dit « waouh ». Et c'est vrai que sur le terrain, c'est sans doute super et ça apporte sans doute de la fraîcheur et une présence. Mais l'effet carpet bombing est sans doute un peu survendu, on dira.
Un carpet bombing, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une métaphore qui est vraiment de bon aloi alors que l'Ukraine se fait bombarder par la Russie. Mais bon, c'est l'idée de... Le tapis de bombe, c'est une expression très sarkozienne aussi. C'est ce côté, en fait, on va saturer l'espace. Bam, 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 on va y aller sur beaucoup de présence. On va saturer l'espace, qu'il soit médiatique ou territorial. On va vous montrer que vous n'allez pas pouvoir sortir de chez vous, aller au marché sans avoir croisé un petit groupe de marcheurs qui va vous distribuer les tracts. Voilà, c'est cette idée que vous allez montrer qu'il y a une présence militante, territoriale, extrêmement forte de la République En Marche sur le terrain.
C'est vrai que là, ça donne vraiment l'impression d'être... la campagne par défaut et un peu en attendant Godot, quoi, puisque c'est comme les meetings sans le candidat, c'est un plan B, quoi.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est sensible à cette petite musique qui est montée à partir du moment où il a dit qu'il ne faisait pas de débat, pas de mandat ?
Il y a une question autour de la mobilisation de l'électorat. En fait, on ne sait pas s'il joue à se faire peur ou pas avec cette question-là. Et certains disent qu'ils n'ont pas tellement peur de perdre face à Marine Le Pen, mais plutôt d'être mal élu dans le sens où il y aurait une assez faible participation au deuxième tour et que quelque part, la légitimité des réformes que Emmanuel Macron voudrait mettre en place dans un second mandat serait déjà fragilisée par une faible participation populaire. Donc, ils veulent montrer qu'ils ont vraiment gagné, en fait. Emmanuel Macron, à un meeting à Nice, avait enregistré une vidéo de 3 minutes dans laquelle il dit allez m'aider à conquérir un véritable mandat. Un véritable mandat. Donc, pas quelque chose par défaut.
Pourtant, on l'entend souvent, cette critique de « Ah, il ne descend pas dans l'arène médiatique, en gros, il ne veut pas débattre. » On a vu certains candidats dire « Oh, c'est scandaleux, donc moi, j'ai envie de débattre avec Emmanuel Macron. » Ça, c'est depuis le début, c'est réfléchi comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit tout de suite « Je ne veux pas faire de débat. »
Alors ça, c'était, en tout cas, c'était pas lié à la guerre en Ukraine. On l'a entendu bien avant. Et certains dans la majorité ont estimé qu'on l'avait entendu un peu trop tôt. C'est devenu assez évident pour eux, en tout cas, avec l'actualité. Dire c'est une lourde machine de caler un débat. Ça, c'est injouable dans son agenda de caler ça, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'ils ont répété bien avant. Enfin, qu'ils avaient tranché bien avant l'invasion de l'Ukraine. Et c'est vrai qu'il y a un effet d'accumulation, quoi. Pas de débat, peu de confrontation, peu d'interviews, peu de présence sur le terrain. Ça crée un effet d'accumulation.
Et je pense que ce qui les inquiète, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'une des seules choses qui ont imprimé dans la campagne, c'est l'idée que Macron ne voulait pas débattre. Il ne voulait pas du débat à 12. Il y en a certains qui nous disent, voilà, quand les gens nous font des remontées de terrain, ça c'est quelque chose, c'est un argument qui a porté, qui a imprimé dans l'esprit des Français. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se montre aussi très au contact des citoyens, dit aussi qu'il débat notamment avec les journalistes, ce qui est assez hallucinant parce que c'est pas des débats, c'est pas des vrais débats en tout cas. Mais il a, ne serait-ce que dans les termes employé, il y a cette idée que le président débat. Ça, ils ont une façon de vraiment insister là-dessus.
On dit qu'Emmanuel Macron a un programme de droite. Comment réagit-il par rapport à ça ?
C'est un autre gimmick de la Macronie, mais c'est de... Le terme de droite, on part tout de suite dans un long laïus sur non, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Lui, à la conférence de presse, a répondu qu'il se fichait royalement, même présidentiellement, de savoir si ses propositions étaient de droite ou de gauche. De fait, on l'a vu à la conférence de presse où il a déroulé l'intégralité de son programme, il y a une coloration de droite. C'est assez évident. Alors, eux, à chaque fois, citent les petites mesures, enfin, les mesures social qu'il y ajoute, qu'il y adosse, mais c'est vrai que l'âge légal à la retraite, c'est un marqueur fort.
Aujourd'hui, oui, il a dit d'ailleurs à Dijon que pour bien marcher, il fallait une jambe droite, une jambe gauche, c'est-à-dire qu'il reprend son bâton de pèlerin de 2017, Emmanuel Macron, malgré le fait qu'il a un bilan maintenant à défendre.
Le fait est que il ne se renie pas. C'est le côté de la continuation de 2017, la jambe gauche, la jambe droite, mais c'est malgré tout extrêmement déséquilibré. Après, c'est aussi pour ça qu'il a tenu à se montrer aux côtés de François Rebsamen, qui est quand même une figure du Parti Socialiste, pendant son déplacement à Dijon, c'est de montrer que les socialistes et sociodémocrates sont avec lui. C'est important de le montrer c'est important de le montrer aux Français, à défaut d'avoir forcément le programme qu'il justifie derrière. Parce que, comme le disait Laure, entre les je crois une quinzaine de milliards d'euros rendus soit aux ménages, soit aux entreprises sur les impôts, reculer l'âge légal à 65 ans, je ne parle même pas des droits de succession qu'il veut aussi alléger, enfin tout ça c'est des totems de droite. Et donc c'est pas du saupoudrage de donner quelques heures d'accompagnement pour l'autonomie des personnes âgées en plus chaque semaine ou de donner quelques centaines d'euros au plus aux mères célibataires qui va rééquilibrer ça, c'est plus du saupoudrage.
On parle donc de cette campagne d'Emmanuel Macron et sur libellisé@libération.fr, on nous a posé pas mal de questions et notamment celle de Romain qui parle de l'actualité toute récente.
Bonjour Romain, 40 ans, Paris. Je voulais savoir si l'affaire McKinsey, dont on parle beaucoup, peut avoir des conséquences pour Emmanuel Macron.
Alors, est-ce qu'on peut dire que l'affaire McKinsey peut vraiment être embêtant pour Emmanuel Macron et surtout, est-ce que ça peut l'accompagner encore derrière en cas de réélection ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que ça les inquiète parce qu'on voit qu'il y a des éléments de langage à tous les étages pour dire qu'il n'y a absolument aucun problème. Emmanuel Macron lui-même a dit que s'il y avait un souci, ils avaient qu'à aller au pénal. Donc, sur le fond, ils affichent vraiment une forme de sérénité et de certitude. Le problème, c'est que ça réactive pas mal d'éléments qui sont pas bons pour Emmanuel Macron. Il y a le côté McKinsey, cabinet de conseil américain, ça réactive le président des riches, ça rappelle le banquier d'affaires, c'est un peu cet univers-là. Les gens qui ont lancé En Marche avec Emmanuel Macron, c'est la France des cabinets de conseil, c'est la France des CSP+, c'est la France des fonds d'investissement qui aussi aidaient parfois pour certains à lever des fonds pour sa campagne. Voilà, c'est cette France-là et c'est pas bon.
Ça résonne avec le côté start-up nation du début du quinquennat et l'intrusion du privé dans les affaires de l'État. Sur les réseaux sociaux, ça prend extrêmement bien, ça colle. Ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Et le problème de la réponse d'Emmanuel Macron, c'est qu'il répond sur un plan juridique, alors que l'affaire est en train d'être politique, quoi. Mmh. Et donc, visiblement, ils tentent de corriger le tir, ils organisent un peu la riposte, les arguments, mais la réponse est tardive.
Les critiques, les accusations, carrément même en illégitimité, sont récurrentes par rapport à Emmanuel Macron. On l'a même entendu de la part de Gérard Larcher, quand même président du Sénat, numéro 2 de l'État. Est-ce que ça c'est un risque pour Emmanuel Macron en cas de réélection, derrière, de nouveau, de dire c'est un président illégitime?
Alors, cette contestation du scrutin, exprimée d'autant plus par Gérard Larcher, président du Sénat, elle a été extrêmement mal prise. Aussi parce que c'est Gérard Larcher, donc il a été vraiment visé comme institutionnellement, il y a quelque chose de peu responsable dans cette critique. Donc, eux appuient là-dessus pour décrédibiliser la critique. Mais ça rejoint ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure sur la peur d'être mal élu ou de ne pas être allé chercher ce véritable mandat. La peur que cette élection, cette campagne un peu bizarroïde, cette élection débouche sur soit un troisième tour social, soit des contestations dans la rue, que ça ravive les braises mal éteintes de la crise des Gilets jaunes. Oui, bien sûr, il y a cette crainte. Après, le terme d'illégitimité était très critiquable, quoi.
Et puis cette interrogation, elle est extrêmement révélatrice aussi d'un excès de confiance, parce que quand votre pire crainte, c'est d'être mal élu ou pas assez légitime, c'est qu'au fond, vous considérez que vous avez déjà gagner. Et c'est peut-être un peu le problème de cette campagne Macron, c'est qu'ils ont beau dire qu'il faut se mobiliser, qu'on a toujours peur de Marine Le Pen au deuxième tour, à la fois dans ce qu'ils disent et dans les non-dits, il y a quand même cette espèce de secret de polichinelle qu'ils pensent avoir gagné.
Une dernière chose, plus personnelle, c'est comment de suivre une campagne d'un candidat qui n'a commencé qu'il y a que deux semaines. Et est-ce que d'ailleurs, c'est journalistiquement, c'est possible de suivre la campagne d'Emmanuel Macron comme il est président aussi? Comment ça s'organise?
Le rapport de Macron et de ses conseillers à la presse est toujours aussi verrouillé qu'avant, on est toujours aussi maltraité entre guillemets collectivement qu'auparavant, on a toujours aussi peu d'informations qu'auparavant, il y a toujours aussi peu de conseillers qui nous parlent qu'auparavant, aussi peu d'élus qui ont une parole libre. Donc honnêtement, je vois pas forcément tellement de différence. Après, ce que ça change, c'est qu'il n'y a pas forcément autant d'événements qu'il aurait pu y avoir, on est peut-être prévenu encore un peu plus à l'arrache qu'auparavant, mais ce qu'on peut aussi comprendre du fait de l'agenda ukrainien, honnêtement, je vois assez peu de différence. C'est peut-être juste un peu frustrant de pas en faire plus.
Ce qui est étonnant, c'est dans le cerveau. On a vu nos collègues couvrir des campagnes très tôt, à partir depuis cet été en fait. Ils sont sur des événements de campagne, des primaires, des déplacements, des meetings. Ils ont des agendas à 3 semaines, enfin une visibilité sur 2-3 semaines. Nous, on ne sait pas s'il y a un déplacement le lendemain. Enfin, c'est vrai je pense que dans le service, ça peut créer un effet de décalage en tout cas.
Et c'est un peu l'idée que la présidentielle, c'est un peu les Jeux Olympiques auxquels nous, on se prépare pendant 5 ans. C'est notre grand moment et j'ai eu l'impression d'avoir chopé le Covid juste avant, quoi. Ça nous a un peu retiré notre jouet, quoi.
C'est la fin de ce 9e épisode de Libellisé. Merci Laure, merci Jean-Baptiste. Avant de se quitter, sachez que toute la semaine prochaine, Libellisé se fait quotidien avec chaque jour un focus sur une ou un candidat avec les journalistes qui l'ont suivi au plus près durant cette campagne. Ça ne se rate absolument pas. Alors un conseil, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. On se retrouve la semaine prochaine.